Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire aujourd'hui, deux écrivaines. Hélène Winner, dans un instant, sociologue américaine, avec qui s'est entretenu Baptiste Touvré du magazine Books à l'occasion de la publication du livre « L'art en question, une approche psychologique », sujet qui sera le thème de la chronique de notre partenaire en fin d'émission. Et pour commencer, notre première invitée, romancière franco-américaine, Patricia Reznikoff, qui a grandi avec Alice au Pays des Merveilles, un classique qu'elle a choisi de réécrire en partie dans son nouveau roman, en mettant en avant les combats féministes de la jeune héroïne, toujours d'actualité. Une version personnalisée donc, intitulée « Alice au Pays des Femmes ». Mais avant de retrouver notre auteur, voici un extrait de l'original signé Lewis Carroll.
Alice commençait à se sentir très lasse de rester assise à côté de sa sœur sur le talus et de n'avoir rien à faire. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre que sa sœur lisait, mais il ne contenait ni images ni conversation. Et se disait Alice, « À quoi peut bien servir un livre où il n'y a ni images ni conversation ?» Elle se demandait, dans la mesure où elle était capable de réfléchir, car elle se sentait tout endormie et toute stupide à cause de la chaleur, si le plaisir de tresser une guirlande de pâquerettes vaudrait la peine de se lever et d'aller cueillir les pâquerettes, lorsque, brusquement, un lapin blanc aux yeux roses passa en courant tout près d'elle. Ceci n'avait rien de particulièrement remarquable, et Alice ne trouva pas non plus tellement bizarre d'entendre le lapin se dire à mi-voix « oh mon Dieu, je vais être en retard !» Lorsqu'elle y réfléchit par la suite, il lui vint à l'esprit qu'elle aurait dû s'en étonner, mais sur le moment, cela lui sembla tout naturel. Cependant, lorsque le lapin tira bel et bien une montre de la poche de son gilet, regarda l'heure et se mit à courir de plus belle, Alice se dressa d'un bond, car tout à coup, l'idée lui était venue qu'elle n'avait jamais vu de lapin pourvu d'une poche de gilet ni d'une montre à tirer de cette poche. Dévorée de curiosité, elle traversa le champ en courant à sa poursuite et eut la chance d'arriver juste à temps pour le voir s'enfoncer comme une flèche dans un énorme terrier placé sous la haie.
Et c'est avec cet extrait, lu par Ariel Dombal, dans la magnifique collection audio « La bibliothèque des voix » des éditions des Femmes, que nous ouvrons cet entretien avec donc le tout début du grand classique de Lewis Carroll, « Alice au Pays des Merveilles », un livre majeur qui est le fil conducteur du nouveau roman de notre invité, une fiction intitulée « Alice au Pays des Femmes », paru chez Flammarion. Bonjour Patricia Reznikoff.
Bonjour.
Que représente pour vous le personnage d'Alice dont vous réécrivez ici une version personnalisée ?
Oui, alors là j'ai entendu avec plaisir la véritable Alice qui m'a tant inspirée. Alice a été un des livres de chevet parmi d'autres, un de mes livres de chevet. Mais c'est vrai qu'il tient une place particulière parce que j'ai toujours été admirative de Lewis Carroll d'avoir su si tôt, en 1862, donner une telle place à une fillette, une simple fillette, et Dieu sait que les fillettes à l'époque, ça valait pas grand-chose, et lui donner la place d'une exploratrice, d'une penseuse, d'une philosopheuse, une petite créature féminine qui s'aventure dans un monde inconnu et qui cherche à le comprendre avec à la fois modestie, politesse et en même temps audace. Et j'ai toujours trouvé cela absolument remarquable.
Vous diriez que c'est une figure emblématique de l'enfant qui devient adolescente et qui découvre sa condition de femme ?
Oui, quelque part on peut dire cela. C'est aussi l'enfant en général. C'est aussi l'être humain qui se perd dans le labyrinthe illisible de sa propre vie et du monde. C'est évidemment tout cela à la fois. Mais je trouve que Lewis Carroll a eu cette audace lui-même extraordinaire d'imaginer que les filles puissent avoir une vie intérieure et une envie, comme les hommes, comme les garçons, de s'approprier le monde.
Alors c'est bien le sujet de votre roman précisément, Patricia Reznikoff, puisque ici vous faites revivre les aventures d'Alice au Pays des Merveilles, avec quelques modifications notables dont nous allons parler dans un instant, Et en alternance, vous faites entendre la voix d'Alicia, une jeune Parisienne du XXe siècle, que l'on voit grandir et précisément faire l'apprentissage de son genre féminin, avec, pour ouvrir le roman, une scène traumatisante pour l'enfant de 10 ans qu'elle est, devant qui, dans le métro, un homme s'exhibe. Le ton est donné, le monde est brutal envers les femmes.
Oui, le monde est brutal envers les femmes et Clarissa Pinkola Estes, qui a beaucoup réfléchi à la figure de la femme dans la mythologie et dans les mythologies, nous dit qu'en fait, les filles, contrairement aux garçons, ont besoin d'une initiation au monde, c'est-à-dire que le monde est dangereux pour elles. Et c'est ce qui nous est dit d'ailleurs dans beaucoup de contes de fées, Le Petit Chaperon Rouge, La Belle au Bois Dormant, enfin la fille est toujours en danger dans son être de fille et elle doit prendre soin d'elle, elle doit prendre soin d'elle et quelque part elle prend soin aussi du monde autour d'elle. Sa place n'est pas comme celle du garçon. Et si j'ai voulu mettre en ouverture de ce roman cette scène traumatisante pour une fillette de 10 ans, je rappelle en fait, j'explique aux auditeurs que cette fillette à 10 ans prend le métro pour la première fois et elle est folle de joie, elle découvre la liberté de circuler, elle revient de chez une camarade lorsqu'elle est agressée en quelque sorte par un exhibitionniste qui la poursuit quand même, donc c'est plus qu'un exhibitionniste. Et sa première sortie victorieuse de petit être en devenir se transforme en cauchemar. Et lorsqu'elle revient chez elle, elle n'ose pas en parler, elle est traumatisée. Et elle sent qu'on lui a volé quelque chose d'elle-même, quelque chose de précieux, mais elle ne sait pas exactement quoi. Et voilà, si j'ai voulu mettre ça en ouverture du livre, c'est qu'en fait, c'est souvent une scène initiatique pour beaucoup d'entre nous. Lorsque j'en ai parlé autour de moi, des lectrices, évidemment, pratiquement toutes, disent « mais bien sûr, ça m'est arrivé à cet âge-là ou un peu plus tard, ou même avant. »
Alicia, Patricia, des prénoms qui résonnent, qui sonnent dans une forme d'allitération sororale. Vous lui avez prêté certaines de vos particularités ?
Oui, je lui ai prêté ma sensibilité, je lui ai prêté certaines de mes expériences, mais j'ai aussi beaucoup écouté les expériences des autres femmes et j'ai voulu faire, disons, une collection de ces expériences. Cette collection étant exprimée par Alicia, qui tente de grandir dans la confusion d'être fille.
Pourquoi ce livre arrive-t-il maintenant, selon vous, Patricia Resnikov ? Pourquoi mettre en parallèle cette figure romanesque du XIXe siècle avec le destin de cette petite Parisienne de 10 ans dont vous nous racontez le parcours ?
On ne sait jamais exactement pourquoi les choses arrivent quand elles arrivent lorsqu'on les écrit. Il m'a fallu sans doute arriver à un certain âge, une certaine maturité, un certain recul. La constatation que malgré un certain accomplissement de vie, malgré certains échecs, bien sûr, certaines réussites. L'être fille qui est en moi et qui a grandi en moi est toujours là, quelque part. Il se rappelle ses expériences. Il sait que cela n'a pas été facile. Il sait que nous partageons toutes, nous les femmes, une expérience commune. Et il me semblait que les temps étaient venus de le dire. Alors évidemment, j'arrive après beaucoup d'autres témoignages bien plus retentissants, bien plus spectaculaires et qui ont absolument droit de citer, et je m'en félicite. Mais j'avais envie de quelque chose peut-être de plus intimiste et en même temps de plus espiègle, qui passait par le biais de la littérature, par le biais de cette œuvre iconique. Et il ne s'agit pas pour moi d'exprimer un féminisme violent et castrateur. Il s'agissait d'expliquer aux filles, et qui le savent très bien sûr, et aux garçons, ce que c'est que de tenter de prendre sa place en tant qu'être fille.
Alors, pour revenir à peut-être cet écho de vous, Patricia Resnikov, en Alicia, par exemple, elle dit qu'elle a des origines, et plus particulièrement des ancêtres en Ukraine qui se sont exilés. C'est
oui,
votre cas ?
C'est mon cas. C'est absolument mon cas, donc on est en plein dans l'actualité, si j'ose dire. Oui, mes arrière-grands-parents et mes grands-parents ont quitté alors ce qu'on appelait à l'époque la Russie, puisque l'Ukraine appartenait à l'Empire russe et que le tsar était là. Mais ma famille a quitté la région de Kiev en 1907 pour échapper au pogrom de l'époque. Il y avait le grand pogrom de Kitchinev qui avait été un choc électrique pour peut-être la population juive de l'époque et de la région. Et ma famille s'est exilée au Canada puis aux États-Unis. Et j'ai donc été élevée par une mère américaine, mais qui était venue vivre en France. Donc j'ai cette double, triple appartenance. Je suis française de père, américaine d'origine ukrainienne-russe de mère.
Petite parenthèse, vous devez vivre avec douleur ce qui se passe actuellement en Ukraine.
Je vis avec douleur cette affaire terrible, d'autant plus qu'un de mes livres est traduit en ukrainien et que il m'a été donné. Je trouve que c'est un grand cadeau de la vie de retourner en Ukraine. Je suis la première génération à retourner en Ukraine après les traumatismes vécus au début du XXe siècle par mes ancêtres. C'est terriblement difficile et ce qui est très beau aussi, c'est que lorsque j'ai été là-bas, j'ai pu me confronter, j'y suis allée à deux reprises, à Kiev et à Odessa, et à Kiev, j'ai rencontré des jeunes filles qui francophiles et francophones à l'université. J'ai également rencontré des gens dans des librairies, des francophones, des francophiles. La francophilie là-bas est tout à fait extraordinaire, comme vous le savez certainement. Et j'ai été confrontée aux descendants de ceux qui avaient persécuté mes ancêtres. Et j'ai pu leur dire, vous voyez, on a tous souffert, on souffre tous, à certaines générations, les uns et les autres. Et on a eu cette espèce de rencontre et de communion dans la volonté de rencontre et le souvenir de la souffrance. Et c'était très, très beau.
Revenons à la fiction, même si là aussi il s'agit d'une guerre, en tout cas d'une autre guerre entre les femmes et les hommes, dont est témoin votre Alice. Alors je dis votre, car en effet, Patricia Resnikoff, vous avez réinterprété le texte de Lewis Carroll avec, par exemple, une scène de dialogue avec des fleurs qui se confient à Alice. Nous sommes page 171. J'aimerais bien qu'on entende cet extrait, où voilà ce qu'elles disent. « Nous sommes chacune des rescapées. » Auparavant, nous avons été des femmes, précisa le lys. Oui, et si les femmes parlaient, le monde se briserait en deux, ajouta sombrement le lilas. Il y eut un silence. Un papillon volta et vint se poser sur une branche du lilas. Alice sentit son ventre se nouer. Moi, dit doucement la jonquille, j'ai été frappée pendant des années par un homme. C'est après ma mort que je suis arrivée ici. Moi, j'ai été harcelée par celui qui dirigeait l'usine où je travaillais. J'ai dû partir. Je me suis retrouvée seule et sans emploi avec mes enfants. J'ai fini par me suicider. Moi, ajouta la rose, j'ai été kidnappée en Afrique dans mon pensionnat de filles. J'ai été violée de nombreuses fois. C'est comme moi, dit la tulipe. J'ai été une esclave sexuelle dans un pays d'Orient. Moi, j'ai été violée par mon oncle, puis reniée par ma famille. Ma mère n'a rien pu faire. Après mon exécution, j'ai été amenée ici afin de vivre des jours meilleurs. Moi, chuchota timidement le lilas, j'ai connu l'inceste. Et moi, dit le lys, j'ai connu la prostitution. Vous voyez, ce n'est pas ici un simple jardin. Nous sommes toutes des âmes mortes. Il nous a été donné de renaître ici. Ça, c'est vraiment un passage bouleversant où vous vous réappropriez la voix de toutes ces femmes. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer la genèse de cet extrait, Patricia Resnikoff?
Comment l'expliquer, ce savoir ancestral que les femmes sont violentées, sont martyrisées, il est en moi depuis toujours, je crois qu'on grandit en le sachant. Il se trouve aussi que lorsque je finissais d'écrire le livre, j'ai lu cet extraordinaire livre de Denis Mukwege,
Le médecin
réparateur des femmes, voilà, et qui ce livre qui s'appelle La force des femmes, je conseille à toutes de le lire et à tous aussi. C'est un livre bouleversant où cet homme, ce magicien, cet homme qui éprouve un amour infini pour ces femmes violentées par la guerre, rendues à l'état d'esclaves sexuels, mutilées par les hommes, les répare et leur rend leur dignité, leur fierté, les rend à la vie. Et son livre est absolument bouleversant. Et alors, j'avais pas besoin de lire ce livre pour savoir ce qu'il en était, mais je pense qu'il a aussi, il m'a aidé peut-être à franchir le pas. Mais ce chapitre que vous citez en est un parmi d'autres, et il y en a qui sont aussi tout à fait gais et drôles. J'ai même beaucoup ri en écrivant.
Absolument, mais
parce
nous
que
aussi
j'ai voulu ce qui caractérise l'œuvre de Lewis Carroll et beaucoup d'œuvres anglaises de l'époque, c'est la notion de l'absurde, le nonsense. Et j'ai été élevée dans ce nonsense qui m'est très cher. Et je trouve d'ailleurs que on peut dire que souvent la vie des femmes est assez absurde quand on voit la façon dont il nous est donné d'essayer de vivre normalement à côté des garçons à l'école avec nos histoires de règles qui nous empêchent d'aller faire de la gymnastique. Ensuite, cette peur ancestrale de tomber enceinte. Ces jeunes filles qui doivent avorter. Moi, j'ai connu ça dans mon entourage, au lycée et au collège même. Et donc, cet extraordinaire absurde qui nous est donné de vivre lorsqu'on est enceinte et lorsqu'on accouche, c'est quelque chose d'absolument extraordinairement transcendant. Et puis, quelque part, c'est fou quand on y pense. Les femmes vivent des choses folles. Je ne suis pas sûre que les hommes en vivent d'aussi folles. Et c'est pour ça que ça me paraissait tout à fait logique, en fait, dans cette logique de l'absurde, de faire vivre les filles à travers l'histoire d'Alice.
Pour illustrer donc ce propos qui met en lumière les femmes, vous féminisez un certain nombre de personnages de Alice au Pays des Merveilles. Et par exemple, le lapin blanc, qui est toujours pressé, devient une lapine. Et le chat Cheshire,
du Cheshire,
je vous laisse l'accent, devient la chatte du Loir-et-Cher, sans oublier une œuf, je dis bien une, qui met tous les mots au féminin, puisque, dit-elle, ce sont les femmes qui fabriquent la monde. Un commentaire, Patricia Resnikoff.
Alors, la œuf, c'est évidemment inspiré du fameux personnage de Humpty Dumpty. Humpty Dumpty, c'est l'œuf des fameux nursery rhymes que l'on connaît bien si l'on a été élevé en Angleterre. Et le fameux Humpty Dumpty est assis sur un mur et se casse. Et là, j'ai transformé le fameux Humpty Dumpty en une œuf, un personnage très sage et un peu sévère, qui est assise en haut de son mur. Et lorsque Alice débarque dans son jardin, elle en descend de son mur au risque de se rompre et elle lui fait visiter son jardin de simple. Et elle met tous les substantifs au féminin et elle lui explique le rôle de chaque fleur qu'elle fait pousser dans son jardin ou chaque plante. Et chaque plante a des vertus, disons, encourageantes pour les femmes. Alors telle plante va permettre aux femmes de trouver confiance en elles. Telle autre plante va aider les hommes à être plus courtois et plus respectueux des femmes. Enfin voilà, c'est assez drôlatique et j'ai repris le code du fameux Humpty Dumpty.
Mais pourquoi le lapin devient-il une lapine et le chat une chatte ?
Pourquoi pas ? Pourquoi pas dans un monde de femmes ? Pourquoi pas ?
Pour rééquilibrer un peu la parité, parce que néanmoins, le chapelier reste le chapelier.
Oui, le chapelier reste le chapelier. Il est assez désagréable, hein, vous avez remarqué. Et le lièvre de Mars aussi. Mais le Loir dans la théière, lui, est plein d'empathie et de gentillesse. C'est pourtant un personnage masculin. Vous voyez, non, il ne faut pas toujours chercher, une raison derrière chaque chose. C'était aussi, l'idée était de jouer avec les personnages, avec les personnages iconiques de ce texte iconique, de façon à ce que les gens qui connaissent Alice au Pays des Merveilles s'y retrouvent et constatent ce léger décalage humoristique.
Mais de fait, Patricia Resnikoff, dans votre autre langue maternelle, l'anglais, il n'y a pas de féminin ni de masculin.
Non, c'est vrai.
Est-ce que c'est une chance, selon vous ?
Oui, ça peut être une chance, ça peut être aussi être un handicap, parfois. C'est vrai qu'on n'y pense pas trop lorsque l'on parle anglais. C'est vrai que la question du genre est une question importante d'une langue à l'autre, puisque certaines langues en possèdent trois, comme le russe ou l'allemand. D'autres, en effet, n'en ont pas vraiment comme l'anglais, si ce n'est que, bon, on dit quand même « her » pour dire, voilà. Enfin, voilà, il y a des différences intéressantes. C'est vrai que quand on se penche sur les langues, on y trouve matière à réflexion.
Alice et Alicia vont finir par se croiser le temps d'une scène. C'est la magie de la littérature. Et ça nous amène à la question de l'écriture aussi, puisque si ce roman est l'éloge de la lecture et de la relecture, c'est aussi en creux la naissance d'une écrivaine. Puisque Alicia dit, l'écriture, elle, lui semblait le plus paradoxal des langages, car écrire s'adressait d'abord à soi-même, pensait-elle, avant de parler aux autres et à ceux qui vous liraient. Une sorte d'auto-langage qui ne dépasserait pas chez Alice de l'autre côté du miroir. C'était comme si on écrivait des livres que l'on s'offrait ensuite à soi-même. Mais quoi écrire, point d'interrogation, elle ne le savait pas. Et vous, maintenant, vous le savez, Patricia Resnikoff ?
Je le sais un peu mieux qu'à l'époque, oui. Je vous remercie. Mais c'est vrai que j'ai démarré dans la vie en ayant cette envie d'écrire, mais en ne sachant pas quoi écrire. Non, en fait, j'ai commencé par faire les beaux-arts et par être une plasticienne. J'ai fait un grand pas de côté parce que je venais d'une famille plutôt littéraire et dans les langues aussi. Et j'ai fait un pas de côté pour revenir finalement vers mes premières amours. Mais l'envie de l'écriture ne m'a jamais quittée. Elle a toujours été là. C'est vrai qu'au début, on écrit peut-être pour soi, pour une sorte de plaisir solitaire, j'allais dire, ou de reconnaissance de soi-même, ou d'interrogation de soi-même, ou de dialogue, d'autodialogue. Mais lorsque les livres sont lus par les autres, on s'aperçoit qu'on a peut-être une modeste mission qui est de faire passer certains messages et de partager les questions, parce qu'évidemment, nous n'avons pas plus de réponses, nous les écrivains, que les autres, mais nous avons peut-être le talent de pouvoir poser les questions. Et ces questions étant universellement partagées, le livre est toujours le lieu d'une rencontre, bien sûr.
Merci beaucoup pour cette belle formule de fin. Le livre est toujours une rencontre, en effet. Merci Patricia Resnikoff d'être venue nous parler à ce micro de Alice au pays des femmes, dont on n'a pas tout dit. Il y a plusieurs passages qui sont vraiment bouleversants. Je pense à cette femme qui dit que son rêve, c'est de s'asseoir à côté d'une piscine, de lire un livre. Ce serait tellement merveilleux, mais elle ne sait pas lire et elle vit dans une société où on ne permet pas cela aux femmes. Ça m'a beaucoup frappée. Un autre passage où vous dites « écrire, travailler, batailler, écrire encore » comme un mantra. Et je trouve que c'est un très bel encouragement. Et puis les questions aussi de l'origine du monde, bien entendu. La plasticienne que vous êtes, l'admiratrice de ce tableau si célèbre et en même temps si décrié et qui pourtant est fondateur.
Oui, le tableau de Courbet.
Exactement. Alice au pays des femmes, donc un livre qui a été publié aux éditions Flammarion. Merci encore.
Merci à vous.
Littérature sans frontières, en partenariat avec le magazine Books.
Bonjour Baptiste Touvré.
Bonjour.
À l'occasion de la publication du numéro 119 du magazine Books, qui est actuellement en kiosque et dont le dossier est consacré à la guerre froide 2.0, effectivement l'actualité, hélas, va dans ce sens, nous allons parler d'un sujet un peu plus réjouissant avec vous, en l'occurrence l'art, grâce à un entretien que vous avez eu avec Hélène Winner, qui est une professeure de psychologie américaine et qui a publié un livre traduit en français d'ailleurs, sous le titre « L'art en question, une approche psychologique », traduit de l'anglais par Patrick Hersant, aux éditions Marcus Haller, un livre qui est vraiment tout juste paru. Donc vous vous êtes entretenu avec Hélène Winner et vous lui avez demandé pour commencer une définition de l'art. Ça, c'est une vaste question. Qu'est-ce qu'elle vous a répondu ?
Ah ben, elle m'a répondu, à vrai dire, ce que je m'attendais à ce qu'elle me réponde, c'est-à-dire qu'elle m'a expliqué pourquoi l'art est si difficile à définir. C'est-à-dire qu'on peut dire de l'art beaucoup de choses, que c'est ce qui est beau, ce qui est expressif, ce qui demande de l'habileté. Le problème de ce genre de description, c'est que ça ne s'applique pas seulement aux œuvres d'art et que par ailleurs, ça ne s'applique pas à toutes les œuvres d'art. Il y a d'autres choses que les œuvres d'art qui peuvent être belles, la nature, un visage. Il y a d'autres choses qui demandent de l'habileté. Il y a d'autres choses qui sont expressives et... On ne peut donc pas définir l'art comme on peut définir ce qu'est un mammifère, ce qu'est l'eau, ce qu'est l'or. Et elle arrive néanmoins, en s'appuyant sur le philosophe Nelson Goodman, à approcher une définition de l'art, ou plus exactement, elle dit que la bonne question, ce n'est pas qu'est-ce que l'art, c'est quand est-ce que c'est de l'art. Et c'est de l'art lorsque nous faisons attention aux propriétés formelles d'un objet, à ses qualités expressives.
Alors c'est un sujet sur lequel elle travaille depuis longtemps et à juste titre, vous lui avez demandé en quoi justement son approche était-elle différente de celle des philosophes.
Oui, alors c'est ça qui est vraiment intéressant. Les philosophes ils vont proposer justement des définitions abstraites, ils vont réfléchir à l'art un peu comme Kant dans sa troisième critique, par l'introspection, par la raison. Et l'approche d'une psychologue comme Hélène Winner, c'est une approche empirique, c'est-à-dire qu'elle fait des tests. Elle teste la réaction des gens à telle ou telle œuvre d'art pour comprendre comment fonctionne concrètement le jugement esthétique.
Alors comment ça fonctionne ? Parce qu'on n'est pas tous égaux devant une œuvre d'art, c'est-à-dire que certains l'aiment, d'autres pas, et personne n'a tort en l'occurrence.
Personne n'a tort, et pourtant... Il y a, et c'est ça qui est très difficile et qui est fascinant, il y a des éléments objectifs. Mais ils sont infiniment difficiles à saisir. C'est-à-dire qu'elle aboutit finalement à des critères qui sont ceux de la durabilité d'une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'on ne va pas savoir sur le coup si une œuvre d'art est extraordinaire ou pas. C'est la postérité qui va nous le dire. L'épreuve du temps. Exactement. Pourquoi il y a des auteurs qui, de leur vivant, sont salués comme de grands auteurs, mais qui ensuite tombent dans l'oubli, et à l'inverse des auteurs auxquels personne ne prêtait attention et qui ensuite sont découverts.
Et c'est ainsi d'ailleurs que le succès, par exemple, des peintres impressionnistes s'explique, parce que à leur époque, beaucoup d'entre eux étaient décriés parce que ce qu'ils proposaient était nouveau, donc non familier au public, qui finalement s'est habitué, a reconnu la beauté de certaines des œuvres qui aujourd'hui sont considérées en effet comme incontournables de l'histoire de l'art.
Oui, exactement. En fait, il y a un certain conditionnement dans le jugement esthétique. Et on va avoir tendance à préférer des œuvres d'art qui sont familières. Et alors c'est là que l'entretien devient très intéressant. Le contexte dans lequel on aborde une œuvre d'art joue un rôle décisif. Elle cite l'exemple d'un des faux en peinture les plus célèbres de l'histoire, les disciples d'Emmaüs, qu'on a longtemps attribué à Vermeer, jusqu'à ce qu'en 1945, on découvre qu'en fait, il avait été peint par le faussaire Han van Meegeren. Ce tableau était porté au nu. Et du jour au lendemain, on s'est mis à dire « Ah non, en fait, il est insipide, il est plein d'imperfections ». Et elle cite d'autres exemples comme ça, d'œuvres qui ne sont pas comprises en dehors d'un contexte, ou plus exactement, auquel on prête de la valeur parce qu'on est conditionné à leur prêter de la valeur. Elle cite l'exemple de ce violoniste, Joshua Bell, qui est un des plus grands violonistes au monde, qui un jour s'installe à une station de métro de Washington et joue comme le ferait un clochard, en fait. Et les gens passaient devant lui sans lui prêter la moindre attention.
Alors qu'ils auraient payé une fortune pour acheter un billet et le voir dans un opéra, habillé en smoking, avec tout l'apparat que ça suscite. Ça en dit énormément oui. sur le contexte.
Oui, oui, exactement. Et en fait, ça nous dit aussi que le jugement esthétique est en partie, pas seulement. Elle montre aussi qu'il y a quelque chose d'instinctivement, on reconnaît à minima la valeur de... On peut distinguer la valeur de certaines arts. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui s'apprend.
Et justement, c'est sur cette question d'ailleurs que se conclut votre entretien. Vous lui demandez si en effet, il ne serait pas plus intéressant d'enseigner davantage les arts à l'école.
Oui, et alors là, sa réponse est très claire, c'est un oui catégorique. Parce que aux États-Unis, et pense-t-elle aussi en France, et d'ailleurs elle a raison, les arts sont tout à fait, c'est vraiment le parent pauvre de l'éducation, de l'enseignement. De l'enseignement, on privilégie le français en France, l'anglais aux États-Unis, les mathématiques, ces matières-là. Or, explique-t-elle, l'art permet le développement de qualités qui sont essentielles à l'humain et qui ne sont pas développées par les autres matières scolaires. Voilà. En revanche, et alors c'est ça qui est très intéressant, je lui ai demandé si ça allait améliorer aussi les résultats scolaires, et elle dit, elle a l'honnêteté de reconnaître que non. En fait, et que ce n'est pas justement un bon argument pour promouvoir l'art à l'école. Non, elle l'a constaté, elle a mené des études empiriques. Ce n'est pas parce qu'un enfant pratique un art que cela va lui permettre d'être meilleur en mathématiques ou en langue. C'est déconnecté. Mais ce n'est pas pour autant, explique-t-elle, qu'il ne faut pas apprendre l'art, au contraire.
Voilà tout ce qu'on peut apprendre, entre autres, grâce à cet entretien et qui nous invite à nous plonger davantage, évidemment, dans ce livre. Je rappelle son titre « L'art en question, une approche psychologique » de Helen Winner, un livre traduit de l'anglais par Patrick Hersant et qui vient de paraître aux éditions Marcus Allaire. Merci beaucoup, Baptiste Touvret, pour cet entretien qui paraît donc dans le numéro 119 de Books et puis arrive d'ici à quelques jours le numéro spécial été qui est consacré, est-ce que vous voulez bien nous dire à quel sujet ?
Ah oui, je veux bien, c'est aux grandes aventurières de toutes les époques et de beaucoup de pays. On va parler de Gertrude Bell, de Freya Stark. On va parler aussi de cette femme qui a voyagé avec Bougainville, déguisée en homme, Jeanne Barré, elle s'appelait. On va parler de cette Scandinave qui a été la première femme à fouler le sol américain et qui y a sans doute donné naissance à un enfant d'ailleurs, et de beaucoup d'autres.
Formidable, un programme qu'on attend avec impatience. Vivement l'été, vivement le numéro 120, mais en attendant, à retrouver ce Books Guerre froide 2.0 actuellement dans les kiosques. Merci beaucoup, Baptiste Touvré.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.